terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Au Québec, vous le savez, peut-être pas. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Toutes les études et autres recherches sur le plan social arrivent grosso modo à la même conclusion. Il y a une surreprésentation des enfants issus des communautés noires au sein des systèmes de protection de la jeunesse. Et toujours selon ces études, les causes de cette surreprésentation sont, je vous le donne un peu comme ça en vrac, le niveau par exemple de besoins plus élevé des enfants noirs par rapport aux autres enfants, l'absence de services accessibles pour ces enfants noirs là au sein de leur propre communauté pour répondre à leurs besoins. Mais on parle aussi du fait que ces enfants noirs sont victimes de préjugés raciaux qui découlent aussi bien de la pratique discriminatoire des professionnels que des pratiques organisationnelles. Alice Beaussoin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes professeure adjointe à l'Université McGill, précisément à l'École de service social. Vos recherches préconisent un changement social transformateur au sein de nos institutions et de nos politiques sociales pour les enfants et les familles noires. Votre travail vise à identifier des solutions innovantes pour faciliter l'accessibilité des services aux populations marginalisées. Et vous êtes aussi impliqué dans plusieurs organisations communautaires visant à améliorer la santé et les résultats sociaux des enfants et des familles noires. Merci d'être avec nous. Juste pour rassurer les gens, vous êtes arrivés. On va y aller doucement, le temps que vous repreniez votre souffle. On est en famille. Hein. Je vous ai pris vraiment de court. Merci vraiment. Merci d'être là pour parler de ça. Parce que vous êtes co-autrice du rapport sur lequel je suis tombée il y a quelques jours, là, le 21 mars dernier, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, un rapport intitulé « Racisme anti-noir, profilage racial et système de protection de la jeunesse au Québec ». J'ai essayé de synthétiser le rapport qui dit que ce n'est que par un regard critique de la surreprésentation des enfants noirs qu'il faut aborder le rôle que joue le système de protection de la jeunesse dans la perpétuation du racisme noir et le maintien des inégalités structurelles. C'est-à-dire que, grosso modo, pour vous, si on s'arrête à analyser cette surreprésentation uniquement comme conséquence des inégalités, ce n'est pas suffisant. Il faut attaquer les sources. Il faut d'abord, un, les comprendre et puis il faut les attaquer. C'est un peu ma compréhension. La première question que je vais vous poser, c'est déjà quand on dit surreprésentation, c'est quoi la surreprésentation?
Ça veut dire, de façon peut-être plus technique, quand on regarde la proportion des enfants noirs au sein de la population, si on prend Montréal par exemple, on voit que par rapport à leur proportion dans la population, ce n'est pas égal à ce qu'on retrouve au sein de la protection de la jeunesse. Donc, on parle d'une surreprésentation parce que leur poids au sein des centres jeunesse est plus élevé que ce qu'on voit dans la population.
Mmh. Vous parlez, par exemple, d'une représentation, grosso modo, de 3 à 4 fois beaucoup plus élevée que les autres enfants.
Oui, c'est ça.
Mmh. Donc, je l'ai expliqué, vous dites que si on s'arrête juste à dire il y a une surreprésentation, ça ne suffit pas. On sait que cette surreprésentation, elle est liée à, des phénomènes comme la pauvreté, différents autres maux sociaux, mais vous dites qu'il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui crée, par exemple, cette pauvreté? Et puis, le rapport, il est là, il est long, mais je vais quand même essayer quelques points que vous avez mis en avant. Si j'en oublie, vous m'aidez. Je prends, par exemple, un des premiers que vous mettez en avant. Vous faites un lien entre la perpétuation du racisme anti-noir et avec la protection de la jeunesse. Comment vous pouvez expliquer ça?
Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que on a un mécanisme un système, en fait, qui est là pour protéger ces enfants. Et si on reste juste au niveau de la protection, on ne va pas nécessairement aller chercher d'autres sources de problématiques, telles que, par exemple, la surveillance de ces enfants-là. Parce que quand on regarde qui on décide de protéger, on voit qu'il y a des différences entre les enfants noirs et les enfants blancs. Donc, on regarde au niveau des signalants, par exemple, on voit que les enfants noirs sont plus portés à être surveillés, qui va amener à une protection. Mais cette protection, quand on parle aux parents, aux familles, puis aux jeunes qui ont peut-être été dans le système de protection de la jeunesse, on constate que cette protection n'était pas si protecteurs ou protecteurs que ça. Mm-hmm. Il y a des séquelles qu'ils ont vues. Il y a des quand on parle de placement, le fait qu'on peut placer des enfants, on parle des familles qui vivent des ruptures. Donc, il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut dire par protéger. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on tente à protéger certaines populations plus que d'autres.
Plus que d'autres. Ouais. Alors, ça commence par le signalement. Vous dites qu'il y a deux institutions, grosso modo, l'école et puis la police, qui sont les plus aptes à signaler des enfants noirs. Donc, mm-hmm. quand on appelle signaler, d'abord, le signalement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on peut aller appeler. On peut appeler des travailleurs sociaux, le DPJ dans ce cas-ci, pour dire...
Je prends mon téléphone, je dis, j'entends beaucoup les enfants de mon voisin pleurer, des choses comme ça.
Oui, c'est comme ça. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement que j'appelle et puis tout ce qu'on appelle va être nécessairement évalué. Mm-hmm. Mais il y a des professionnels qui sont au l'autre bout du fil, mm-hmm. qui vont poser des questions pour essayer de comprendre plus. Donc, quand on parle de signalement, on parle d'une professionnelle. Puis, certaines professionnelles sont obligées de signaler. Donc, on parle du fait qu'on va appeler les professionnels, le DPJ, pour intervenir dans un cas où on soupçonne qu'il y a la maltraitance. Mm-hmm. Et puis, on voit nécessairement... Bien, dans le cas de l'école, on voit à quel point que l'école et la police, ça prend beaucoup de place dans les signalements. On est plus porté à signaler de l'école et de la police les familles noires comparé à tout ce qui est les familles blancs.
Pourquoi?
Je pense que c'est...
Du moins, selon ce que vous avez vérifié, oui.
Ben, je dirais qu'en fait, il faudrait peut-être appeler pour dire, je n'ai pas des preuves pour dire qu'écoute, j'ai appelé ou j'ai constaté à travers plusieurs professionnels de l'école que c'est pour ça. Donc, je peux aller seulement avec des hypothèses, mm-hmm. mais qu'est-ce que je comprends, ça veut dire, c'est que des professionnels sont peut-être croient que justement, à la place d'aller possiblement vérifier auprès des parents et des familles, on préfère peut-être appeler des professionnels où on juge que la situation est trop sévère pour peut-être avoir une discussion avec la famille ou peut-être justement on ne sait pas qui d'autre référer, peut-être on ne sait pas, on n'a pas des liens avec des organismes communautaires, mais pour X et Y raisons, on va constater que c'est les professionnels, les écoles vont plus être les premiers répondants, le DPJ va être les premiers répondants pour ces familles noires parce que les professionnels au sein des écoles puis peut-être au niveau de la police n'ont pas d'autres cours, se sont pas peut-être à l'aise d'en parler directement à ces familles-là, donc ils vont appeler la DPJ à la place pour s'en charger de faire le suivi et la suite des choses.
Mmh. Il y a un autre aspect sur lequel je vais revenir. Quand vous dites que ce que j'ai sous-entendu dans le rapport, toujours dans le quand on parle de signalement, c'est le fait que il y a tendance à signaler beaucoup plus facilement les jeunes enfants noirs, mais ça vient aussi du fait qu'il y a des biais qui associent systématiquement jeunes noirs avec violence.
Oui, puis je pense que aussi famille noire avec violence, lorsqu'on parle de justement abus physique. Oui. La compense punitive, c'est que si un enfant va dire quelque chose ou si on voit un parent agir d'une certaine façon, on va plus associer le mot « blackness » ou la négritude avec ce qu'on voit comme violent. Mm-hmm. Puis ça, c'est une association qui date de très longtemps. C'est dans les médias, comment qu'on est présenté, les stéréotypes qui sont associés avec ça. Donc, pour X et Y raisons, mais pas X et Y raisons, je veux dire qu'on est socialisé, hein? Tout le monde est socialisé à peut-être avoir ce lien entre violence et noir, personne noire. Donc, on va plus aller chercher ce préjugé peut-être lorsqu'on tente à protéger ses enfants parce qu'on croit que peut-être leurs parents sont violents. Mm-hmm. On a plus de préjugés là-dessus.
Mm-hmm. Professeur Alicia Botswain, je vous propose qu'on fasse une petite pause publicitaire, puis on revient avec un aspect aussi que vous avez évoqué dans votre rapport qui est l'implication de l'État dans les familles. Et quand je lisais ça, je me disais, oui, mais est-ce qu'on en a besoin ou pas? Je voudrais qui amène à la fameuse la réglementation biopolitique. Je veux avoir un peu plus de détails là-dessus. On fait une pause.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.
Voilà, toujours sur Néo-Québec, nous sommes en compagnie d'Alicia Botswain, qui est professeure adjointe à l'Université McGill et qui est auteure de ce co-autrice de ce rapport intitulé « Racisme anti-noir, profilage racial et système de protection de la jeunesse au Québec ». Juste avant qu'on ne se sépare, j'étais en train de dire qu'il y a quelque chose que j'ai vu à travers dans votre rapport, que vous appelez la réglementation biopolitique. Et je voulais vraiment mieux comprendre ça, parce que à ma lecture, ce que j'ai dit, ce que j'ai compris, c'est que par la simple possibilité de l'implication de l'État dans la vie des familles, par l'intermédiaire donc de la protection de la jeunesse, cette réglementation biopolitique-là était rendue possible grâce au profilage racial. En termes français, pour moi là, qui comprends rien, ça veut dire quoi?
C'est très difficile d'essayer de résumer dans quelques minutes.
Essayons.
Oui, je vais essayer. Il faut d'abord parler de tout ce qui est comme la suprématie blanche. Mm-hmm. Hein, il faut parler de tout ce qui est la colonisation. Il faut aussi parler d'un certain contexte historique. Et aussi, il faut parler du fait comment qu'on conçoit le corps noir. Tu sais, on est comme on l'a conçu en fait dans le sens où on n'avait pas de droit. Hein? Donc, on est en train de subir, si on veut, le contexte historique de l'esclavage. Et puis, on existe dans une société où on a la suprématie blanche, où il y a certains qui sont en pouvoir et d'autres qui ne sont pas en pouvoir. Donc, une certaine marginalisation. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on parle de cette réglementation, c'est comme si on a choisi de répondre aux besoins d'une certaine partie de la population, les personnes noires, les familles noires, à travers l'État. À la place d'essayer de prendre soin de ces familles, à travers de changer peut-être notre façon de faire, nos politiques, de vraiment s'attaquer à ces inégalités sociales, si on veut. Parce qu'on parle d'une situation qui date pas de quelques mois ou quelques années, de décennies. Donc, il y a comme une certaine tolérance, si on veut, que, écoute, on sait que les enfants noirs, les familles noires sont surréprésentées dans le système de protection de jeunesse, mais on tolère. On dit qu'on va changer ou aménager certaines choses, mais on voit qu'il n'y a pas de résultat. Puis, on n'est pas plus poussé à aller ou plus agressif dans notre façon de vraiment peut-être regarder les structures. Hein? Donc, on tente peut-être plus contrôler ou viser le changement dans les familles, mais eux sont déjà marginalisés dans qu'est-ce qu'ils vivent, dans ces inégalités, si on veut. Mais à la place d'attaquer à ces inégalités, on choisit d'aller avec le système et d'exercer un certain pouvoir sur ces familles de la part de l'État à se conformer, à se mieux fonctionner sans nécessairement changer le logement, sans nécessairement changer les différences quand on regarde au niveau de l'emploi. Donc, tout ce qui est ça, on appelle des structures, si on veut, sociales. Le systémique, le mot qu'on n'aime pas trop dire. Mm-hmm. Donc, on préfère de contrôler à travers le système que de vraiment changer un système qui amène et qui perpétue des inégalités. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'avance dans l'article, c'est de dire que c'est une façon de contrôler à travers l'État qui est la réglementation biopolitique.
Mm-hmm. Vous avez dit quelque part, la question, c'est, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que ça peut être reçu quand on dit à des gens qui sont la protection de la jeunesse et on vient leur dire, mais vous savez, dans votre pratique est empreinte de violence, de racisme, alors qu'à la base, c'est eux qui sont là pour la protection de la jeunesse.
Oui, mm-hmm. C'est une belle question, puis c'est sûr que quand on écrit des articles comme je viens d'écrire, ça peut frustré, mm-hmm. Et puis ça peut faire croire que, écoute, leur travail est juste un travail de punition, si on veut. Mais c'est sûr que je dis ça parce que je pense qu'il y a d'autres discours. Hein. On a un discours qui est un discours de protection. Et puis je nie pas qu'il y a un rôle, dans certains cas, que ces jeunes ou ces intervenants ou le DPJ doit jouer et peut-être le joue. Et qu'il y a des familles puis des enfants noirs qui peut-être justement bénéficient par ce genre de protection. Mais il y a aussi des familles puis des jeunes qui sont traumatisés par ce système. Donc, j'essaie d'amener le discours que j'amène, en fait, pas pour, pour faire mal ou pour dire que le travail qu'ils font, c'est pas bon, mais pour juste amener un autre regard.
Regard critique, comme vous dites, il faut un regard critique.
Oui, puis je pense que c'est nécessaire d'avoir ce regard-là pour justement aller de l'avant. Parce que l'autre regard, en fait, qu'on a, que c'est une question de besoin ou de... comment qu'on peut dire, c'est une question d'intégration dans la société ou des familles qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, on doit aller avec l'éducation. Je veux dire, on n'a pas vraiment pu avancer autant qu'on voulait parce qu'on est toujours dans le statu quo. Les enfants noirs sont toujours surreprésentés. Donc, pourquoi pas un regard un petit peu plus critique, pour peut-être amener une autre vision des choses, pour peut-être changer. Puis de l'amener dans le discours, hein, de vraiment avoir un dialogue sur, écoute, est-ce qu'un système étatique est vraiment le meilleur système? Ou est-ce qu'on peut peut-être aller vers la communauté? Est-ce qu'on peut peut-être consulter les familles noires? Est-ce qu'il y a un rôle pour lequel ils peuvent jouer un plus grand rôle dans tout ce qui est la protection de leurs enfants, de leur communauté?
Tout à fait. Mais c'est ce que vous dites un peu dans votre conclusion, et je veux qu'on termine avec ça, quand vous dites, je vais lire, parce que je pense que ça vaut la peine que les gens l'entendent, il est impératif de reconnaître que tout système de protection de la jeunesse qui n'a pas été créé par des Noirs et qui ne maintient pas les Noirs au centre de sa conception, de sa planification et de sa mise en œuvre ne sera jamais en mesure d'élaborer des politiques et des solutions efficace pour résoudre la surreprésentation et le traitement différencié de ces derniers. Plus qu'une collaboration ou un partenariat avec les communautés noires qui rend leur participation symbolique, un véritable transfert de pouvoir du gouvernement vers la communauté noire est nécessaire pour qu'un changement significatif se produise. Et vous finissez en disant, ce n'est qu'en centrant les voix et les expériences des Noirs au sein du système de protection de la jeunesse que nous pourrons commencer à nous attaquer au racisme anti-noir auquel ces familles sont exposées, faute de quoi le racisme anti-noir, le pouvoir biopolitique, la gouvernementalité et le statu quo se perpétueront. C'est un peu comme ça que vous concluez ça.
Oui.
Pensez que c'est, on va... Vous l'avez dit, vers la communauté, mais il faut changer complètement la façon de faire pour casser cette surreprésentation-là.
Oui, je pense que je parle d'une gouvernance, hein, une gouvernance de la communauté noire, puis on peut s'inspirer les familles autochtones, tout ce qui est les Premières Unies, dans leur souhait, justement, d'avoir leur propre système par eux, pour eux. Je pense qu'on pourrait peut-être envisager quelque chose de similaire pour les familles noires, les personnes noires, une propre gouvernance de notre bien-être, puis de nos enfants.
Question très naïve pour terminer, Alicia Boutouin. Quand vous faites un rapport comme celui-là, vous êtes universitaire, vous faites le rapport, le rapport il va dans l'espace public, vous le donnez à certains interlocuteurs, décideurs de politique publique. Comment on fait pour... Ne serait-ce que prendre certaines de vos idées, est-ce que vous discutez avec les décideurs ou pas?
Oui, j'ai témoigné pour la commission spéciale sur les droits de l'enfant. J'étais là, j'ai parlé des enfants noirs. J'étais un petit peu déçue de ne pas voir qu'on était... en fait, il n'y a pas eu de recommandations qui étaient spécifiques pour les enfants noirs. C'est plus pour les communautés ethnoculturelles, mais...
De manière large.
De manière large. C'est sûr aussi que je fais plus d'efforts de publier en français. Donc, l'article en question, c'est la première publication pour moi en français. Puis, je pense que c'est important.
Oui, je ne l'ai pas dit. Vous êtes anglophone, mais si vous ne l'aviez pas dit, là, personne n'allait même s'en rendre compte.
Oui, c'est ça. C'est que j'ai publié beaucoup, mais dans la sphère anglophone. Puis, je pense que c'est peut-être les anglophones qui lient aux États-Unis puis au Canada, mais... Je fais un effort, puis c'était une fierté pour moi de vraiment pouvoir publier, puis de dire ce que j'avais à dire en français. Parce qu'à la base, je suis québécoise, je suis née ici, mes enfants sont ici, puis je veux avoir un certain impact sur la communauté ici locale. Donc, c'est important pour moi de publier en français, et puis je vais continuer de le faire. Et puis, je pense que ça va, justement, c'est comme ça que vous avez eu.
Tout à fait, c'est comme ça que j'ai eu le rapport, puis c'est comme ça aussi que ça nous permet de pouvoir vous entendre et puis si possible vulgariser ce que vous faites comme travail. Voilà. Ben voilà, c'est pour celles et ceux qui sont intéressés, là je pense beaucoup aux travailleurs sociaux qui nous écoutent, voilà, ce rapport est là, il existe, appuyez-vous là-dessus, accompagnez-le et puis rapprochez-vous de de son auteur qui puis voir un peu comment on peut changer les choses. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce rapport-là. Je trouvais que c'était en plus publié le jour, la journée spéciale pour l'élimination, la discrimination raciale. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Et puis, nous, on va continuer à surveiller vos rapports en français.
C'est bon.
Merci beaucoup à vous.
Ok, merci beaucoup.
Mon nom est Cyril Ekwala.